Bienvenue à chacun. On va ouvrir la parole de Dieu. C'est pour donner suite au message que nous avons vu ensemble dimanche dernier. Ce message qui s'intitule « Le chrétien et l'attente ». Et nous avons vu ensemble que, Dieu nous donne une promesse, dans sa maîtrise des temps et des circonstances, il fixe aussi un temps pendant lequel cette promesse va s'accomplir. Et nous avons parlé un peu de l'impatience des hommes que nous sommes. Nous sommes impatients parce que nous voulons que les choses s'accomplissent en notre temps. Même si le Seigneur fait des promesses, il y a ce que nous ne devons pas oublier et qui est très important. La promesse de Dieu s'accomplit au temps de Dieu, pas en notre temps. Et nous avons vu ce que Jésus va dire à ses disciples lorsqu'il était tout prêt à repartir auprès de son Père. Il va leur dire, attendez la promesse du Père et eux, ils vont obéir. Nous avons parlé de cette attente dans l'obéissance, de cette attente dans la foi et de cette attente dans la persévérance. Nous avons vu également, malheureusement, qu'il y a dans la parole de Dieu, nous avons pris l'exemple de Saül qui, dans son impatience, va désobéir à la volonté de Dieu et il est passé à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui. Quelle tristesse! Lui qui avait été choisi, c'est Dieu lui-même qui est allé le chercher pour le faire roi d'Israël. Mais malheureusement, il n'a pas su attendre lorsque Samuel va lui dire, attends 7 jours jusqu'à ce que je revienne. Quand il va y avoir des circonstances, et tout comme nous parfois, il y a des circonstances qui nous poussent à vouloir tordre le bras de Dieu à notre faveur. Lui, il a vu les Philistins, l'armée philistine l'entourer. Et parce que le peuple de Dieu a vu les Philistins, il a eu peur et il a commencé à s'éloigner. Il a commencé à s'en aller et lui, Saül, voyant en cela, voyant que le peuple s'éloignait, voyant que l'armée d'Israël, des Philistins venait, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Et quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que alors qu'il finissait, d'accomplir le sacrifice, Samuel est arrivé. Il en fallait juste un peu de temps. Samuel va lui dire, qu'as-tu fait? Tu as agi en insensé. Dieu aurait pour toujours affermi ton règne sur Israël. Mais parce que tu as désobéi, il s'est choisi un homme selon son cœur. Frères et sœurs, nous nous rendons compte que il y a bien des circonstances, il y a bien des situations qui peuvent nous pousser à faire le contraire de ce que Dieu nous a demandé. Et puisque nous laissons assaillir par les événements, nous nous laissons assaillir par les choses que nous voyons autour de nous, et parfois même malheureusement, on se laisse assaillir par le monde, par la mentalité du monde, nous passons à côté de ce que Dieu a prévu. Aujourd'hui, j'aimerais, pendant juste quelques minutes, nous parler de quelques modèles d'attente dans la parole de Dieu. Si nous avons parlé de Saül qui, malheureusement, est passé à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui, il y a bien des exemples dans la parole de Dieu qui nous parlent d'hommes et de femmes ayant passé par des temps de souffrance, ayant passé par des difficultés, mais à cause de leur foi, à cause de leur persévérance, à cause de leur intimité avec Dieu, ont su attendre jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. J'aimerais lire ce passage que nous avons vu également dimanche dernier dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. L'auteur de cette épître va nous dire ceci. « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance. Lorsque Jésus va donner cette recommandation à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Il savait, Jésus, l'importance de cette promesse sur la vie des disciples au regard de la mission qui était la leur. Cette mission ne pouvait s'accomplir, cette mission ne pouvait être effectuée que dans la mesure où les disciples recevaient la puissance du Saint-Esprit. Ce qui m'amène à dire, frères et sœurs, si il en était ainsi pour les disciples, nous aussi, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre et la volonté de Dieu au milieu d'une génération perverse si nous n'attendons pas que le Seigneur nous révèle de sa puissance, de son autorité, afin d'agir en son nom. En lisant la suite, nous voyons qu'il est dit qu'ils retournèrent à Jérusalem. Et c'est là qu'il y a eu cette attente dans l'obéissance, puisqu'ils retournèrent. Et ils vont monter dans la chambre haute et ils vont se mettre tous à prier. Ils vont mettre leur foi en action en attendant que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et comme on s'est rappelé, ils ne savaient pas ce à quoi s'attendre. Nous lisons ce qui est écrit, mais eux, ils étaient ignorants de ce qui allait se passer. Mais leur foi en Jésus et en sa promesse les a poussés à demeurer ensemble dans cette chambre haute en s'attendant à la grâce de Dieu. Et il nous est dit qu'ils prièrent, ils persévérèrent dans la prière. Ils persévérèrent. Frères et sœurs, quel que soit ce que Dieu a déposé sur nos cœurs, même si cette promesse tarde à venir, attendons-la, comme la parole de Dieu dit, elle s'accomplira certainement. Parce que quand Dieu dit une chose, elle s'accomplit. Ce n'est pas un homme pour mentir. Je peux dire quelque chose et ne pas tenir ma promesse parce que je suis homme. Mais Dieu qui est Dieu, et qui restera Dieu, accomplira toujours ce qu'il a promis. Le résultat de leur attente, c'est qu'il nous est dit, parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont œuvré dans la foi, sans s'attendre, sans savoir ce à quoi s'attendre, ils ont mis leur foi en action, ils ont obéi, ils ont persévéré. Il nous est dit au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, soudain, quelque chose va se produire. Parce que, frères et sœurs, comme nous l'avons vu ensemble, quand on met en application ce que Dieu nous demande, il y a toujours une bénédiction qui s'ensuit. On n'obéit pas pour obtenir la bénédiction, mais quand on obéit, il y a la bénédiction. Quand on met notre foi en action, il y a la récompense. Quand on persévère malgré tout, il y a la récompense. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » J'aimerais parler de l'attente d'Abraham. Abraham C'est Dieu qui a parlé à cet homme pour lui dire de quitter sa patrie, de quitter sa famille pour aller dans une terre qu'il ne savait même pas. Je vous prie de croire qu'aujourd'hui, si cette parole nous devait nous être adressée, quelle serait notre réaction? Ah Seigneur, je suis bien assis. Hein? Abraham, il était bien assis. Hein? Il avait ses terres, il avait ses troupeaux. Ah Seigneur, aujourd'hui, voilà, je suis bien assis, j'ai une belle situation, j'ai une belle famille, voilà, je suis peut-être tout près de la retraite. Non, 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 ne me demande pas de bouger. Et pourtant, si c'est Dieu qui te dit, il sait le pourquoi. Mais pourquoi voulons-nous discuter avec Dieu? Il nous est dit dans Genèse au chapitre 12 et au verset 1er 2, Dieu va dire à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille vers une terre que je vais te dire. Et la suite nous dit que le lendemain, il se leva et il s'en alla, sans savoir où il allait. On peut se dire, quelle folie, hein? Quelle folie! Où vas-tu aller? Oui, c'est une folie aux yeux des hommes, mais c'est une sagesse devant Dieu parce qu'il a mis sa foi en action. Parce que si lui ne savait pas où il allait, Dieu savait, et à cause de sa foi, Dieu allait le conduire. Frères et sœurs, quel que soit ce que Dieu va nous dire, même si nous ne savons pas ce que Dieu nous demande, puisqu'il nous demande quelque chose, obéissons par la foi parce que c'est lui qui nous conduira. Il s'est levé Abraham. Et Dieu va lui faire cette promesse qu'il va être le père d'une multitude. Mais la condition n'était pas favorable pour être père d'une multitude. Il avait une femme, certes, mais pas d'enfant. Comment faire? Il était âgé de 75 ans. Quand Dieu va faire cette promesse qu'il serait l'ancêtre d'une grande multitude et qu'un fils lui serait né. Et cette promesse va être renouvelée à plusieurs reprises au chapitre 13, verset 16, après sa séparation d'avec Lot, au chapitre 15 et au chapitre 17. L'alliance va encore être renouvelée. Mais ce fut quand même 25 ans après. 25 ans entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il s'est écoulé 25 ans. Dieu seul sait si dans 25 ans je serai là encore. Hein. Moi, je ne peux pas, je ne vous garantirai rien. J'espère, mais je ne sais pas. Si dans 25 ans, je serai toujours en vie. 25 ans plus tard, la promesse est accomplie. Nous pouvons lire ceci dans Genèse au chapitre 21, les versets 1er à 5. Voici ce que nous lisons. Genèse chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Ah, il se souvint. Dieu se souviendra toujours de la promesse qu'il nous a faite. C'est nous qui oublions. Nous oublions, mais Dieu n'oubliera jamais. Il se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit ce qu'il avait promis. Moi, quand je lis ça, je me dis, Seigneur, je veux demeurer auprès de toi. Oui, je veux demeurer auprès de toi. Parce que tu n'es pas comme moi. Qui peut dire quelque chose, je peux promettre quelque chose à mes filles sans pouvoir l'accomplir. Mais toi, Dieu, ce Père aimable, quand tu nous dis quelque chose, tu l'accomplis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Frères et sœurs, la parole de Dieu ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Ne la prenons pas comme une simple histoire. Il y a des histoires dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas une histoire, c'est une réalité. Oui, Sarah devint enceinte, ce ne sont pas simplement des mots que Dieu va dire, mais c'est des choses qui devaient s'accomplir. Sarah devint enceinte et elle enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que ce temps d'attente, parce que quand on lit comme cela, voilà, oui, il a eu un fils dans sa vieillesse. Mais pendant ce temps d'attente, il y a eu quand même des embûches, des difficultés, de la souffrance. Déjà, nous voyons lorsque Abraham va se présenter au Pharaon, vu la beauté de sa femme, il va mentir. Premier obstacle. Comme s'il livrait sa femme à Pharaon. Il va l'abandonner par peur. Il en était de même à Abimélec. Mais là, Abimélec ne l'a pas touché, Pharaon ne l'a pas touché. Mais il pouvait compromettre la promesse de Dieu. Parce que par peur, il va abandonner sa femme. Non, c'est ma sœur. Mais écoute, c'est ta femme quand même. C'est celle par qui tu dois avoir le fils de la promesse. Mais parce que Dieu tient à sa promesse, il a empêché que d'autres hommes, un homme touche à cette femme. Parce que c'était par elle que Abraham devait avoir le fils par qui il devait être l'ancêtre d'une grande multitude. Comme si cela ne suffisait pas, dans son attente, sa femme même va le pousser à dire « Prends ma servante, Agar. Prends ma servante. Et un fils avec elle. » Et il va y avoir la naissance d'Ismaël. Et suite à cette naissance, il va s'en suivre la tension dans le foyer. Les deux femmes qui se détestent. L'hostilité entre Sarah et Agar. Et ça monte en crescendo. Le fait, à cause de cette tension, Sarah va pousser Abraham à mettre dehors Agar et son fils, alors qu'il aimait Ismaël. Abraham, c'est son fils. Voyez, autant d'obstacles, autant d'embûches. Mais vous savez, toutes ces luttes vont briser le cœur d'Abraham, mais ce fut là un moyen pour Dieu de le faire mourir à lui-même, afin qu'il soit dépendant de Dieu. La promesse de Dieu ne pouvait s'accomplir que dans la mesure où Abraham dépendait totalement de Dieu. Il en est de même pour nous, frères et sœurs. Si nous voulons que la promesse de Dieu s'accomplisse, il faut que nous nous abandonnions complètement à lui. Complètement. Il n'y a pas de demi-mesure. Il a fait face à des luttes terribles, mais il a maintenu sa confiance en Dieu envers et contre tout. L'apôtre Paul, quand il va parler de cet homme, nous dira ceci dans son épître aux Romains, au chapitre 4, verset 19. Romains, chapitre 4. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voyez-vous, frères et sœurs, 25 ans d'entente, 25 ans de temps d'épreuve, de lutte, de combat, 25 ans de période où l'accomplissement tardait à venir, comme à faire. Vous savez, quand l'exaucement tarde, on se pose la question, comment agir, comment faire? Tout comme le parcours d'Abraham, il faut que Dieu brise notre cœur. Il faut que Dieu nous pousse réellement à cette dépendance totale de lui. Il faut que nous arrivions au point où nous nous disons, oh Seigneur, rien ne compte plus à mes propres yeux. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est que ta volonté s'accomplisse. La mort à nous-mêmes, c'est quelque chose de vital dans notre marche avec le Seigneur. Jésus dira lui-même, si le grain de blé ne meurt, et on le sait, hein, ceux qui plantent, qui cultivent, quand on sème, pour que ça pousse, il faut que ça meure. Et je prie Dieu, je dis Seigneur, chaque jour, amène-moi à mourir à moi-même tous les jours. Parce que de vous à moi, on sait bien, la chair veut toujours prendre le dessus. Qui que nous soyons, hein. La chair veut toujours prendre le dessus. Parce que, voilà, le diable ne se réjouit pas de nous voir être dépendants de Dieu. Il ne se réjouit pas. Et à cause de cela même, il va tout faire pour nous faire passer à côté. Puisque lui, ayant passé à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui, il veut pousser les hommes à passer à côté. Mais c'est sans compter sur l'œuvre de Jésus à la croix. Il y a une bonne nouvelle, frères et sœurs. Oui, à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, nous pouvons tenir ferme et dire, Seigneur, je veux demeurer auprès de toi. Passons à un autre homme, Joseph. Joseph, il avait à peu près 17 ans quand il va recevoir ses rêves. Il attendait la réalisation de ce que Dieu lui avait donné. Mais on voit que par la jalousie de ses frères, il va aussi passer par des temps d'épreuve, par la souffrance. Et on peut même dire injuste. Mais c'est le parcours que Dieu avait choisi pour lui. Il n'aurait pas pu être ce qu'il a été s'il n'était pas passé par là. Il fut jeté alors qu'il était chouchouté par son père, jalousé par ses frères. Il va être vendu aux Madianites, puis jeté dans une citerne. Je ne sais pas lequel vous choisirez, entre le fait d'être trahi par vos frères ou être jeté dans une citerne. Je ne sais pas. Choisissez ce que vous voulez. Mais moi, je ne veux aucun. N'est-ce pas? Vendu aux Madianites, puis vendu comme esclave. Mais vendu comme esclave dans un autre pays. Imaginons un peu la souffrance de ce jeune homme, alors qu'il avait reçu une parole de Dieu. Le texte ne nous montre pas pendant ce temps-là quelle a été la réaction de ce jeune homme. Mais mettons-nous un peu à sa place. Mettons-nous un peu à sa place. Quelle aurait été notre réaction en vivant toutes ces choses? Comme si cela ne suffisait pas, il va même être jeté. Là aussi, c'était un crescendo. Hein. Il va aussi être jeté en prison, injustement. Pourquoi? Parce qu'une certaine femme va vouloir le pousser à faire des choses qu'il ne voulait pas lui faire. J'aimerais m'arrêter juste un instant pour nous présenter quand même l'attitude de Joseph. Il aurait pu se dire, Seigneur, tu as permis que je sois vendu, mes frères me détestent, je suis loin de ma famille, personne ne me voit. Ah, il y a une belle femme qui se présente dans un plateau d'or devant moi. Je me saisis de cette occasion. Mais c'était sans compter sur la fidélité de Joseph à son Dieu. Parce qu'il connaissait son Dieu. Même s'il était loin de sa famille, il savait que son Dieu était partout. Et il va fuir cette épreuve-là. À 30 ans, il est au service de Pharaon. Nous lisons cela dans Genèse 41-46. Vous savez, la promesse commence à se mettre en place. De 17 à 40, à 30 ans, il y a 13 ans. 13 ans de trahison, 13 ans de souffrance, 13 ans d'incompréhension. Que faire? 13 ans de malheur, 13 ans d'injustice. Pourquoi Dieu a-t-il permis? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Vous savez, avant que la promesse de Dieu se soit accomplie, pour Abraham, il fallait qu'il meure à lui-même pour dépendre totalement de Dieu. Pour Joseph, c'était une autre chose. Il fallait que son orgueil soit brisé. Souvenez-vous de la manière dont il s'est présenté devant ses frères. Ah, j'ai reçu ce rêve. Vous allez tous vous prosterner devant moi. Et même papa et maman vont se prosterner devant moi. Quel orgueilleux, hein? Même si c'était la réalité, c'est quand même orgueilleux. Mais il fallait qu'avant qu'il soit propulsé comme gouverneur d'Égypte, il ne pouvait pas y aller avec cet orgueil. Parce que ce aurait été lui qui allait être vu. Mais à partir du moment où son orgueil va être brisé, Joseph lui-même reconnaît qu'il était là, non par lui-même, mais à cause de la grâce de Dieu. Puisqu'il dira à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Quelle grâce! Il reconnaît que s'il est ce qu'il est, c'est par la grâce de Dieu. Et Dieu l'a mis là parce que Dieu pensait à son peuple. C'est par lui que Dieu va se servir pour nourrir Israël pendant ce temps de sécheresse-là, pendant ce temps de famine. Si Joseph n'était pas là, que serait le peuple d'Israël? Son orgueil devait donc être brisé pour faire place à la volonté de Dieu. Mais 13 ans se sont écoulés. Je pense qu'il aurait-il pu abréger ces années de souffrance si, comme Jésus, il s'était humilié. Souvenons-nous de ce que Paul va dire dans son épître aux Éphésiens. Jésus qui s'est humilié, qui n'a pas regardé comme une poire arrachée à se faire égal à Dieu. Mais il s'est humilié en allant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est à partir de ce moment que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, quand nous sommes dans ce tas d'attente, nous avons besoin de nous humilier, de laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Et au temps convenable, comme l'apôtre Pierre va le dire au chapitre 5, verset 6, c'est lui qui nous élèvera au temps convenable. Oui, c'est lui qui nous élèvera. À 17 ans, Joseph voulait que Dieu l'élève. Non, mais ce n'était pas comme cela, bonhomme. Non, attends que la volonté de Dieu s'accomplisse. On peut parler de beaucoup, dans l'Ancien Testament, de beaucoup d'hommes, de Moïse. Que dire du peuple d'Israël qui était en esclavage pendant plus de 400 ans? Mais imaginez, 400 ans de souffrance, jusqu'à ce que leur cri monte vers Dieu. Et Dieu lui-même va dire, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Mais 400 ans se sont écoulés. 400 ans se sont écoulés quand même. Mais j'aimerais finir juste avec cet exemple dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, il nous est fait mention de la rencontre de Jésus avec cet homme qui était couché depuis 38 ans. Moïse, lui, il a attendu 40 ans. 40 ans, il a été, à 40 ans, il a été dans le désert pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il a attendu 40 ans, c'est à 80 ans qu'il a commencé à entrer dans le plan de Dieu. Mais cet homme, quand nous lisons ce passage, nous voyons que Jésus porte son attention sur un homme malade depuis 38 ans. Voilà 38 ans que ce paralysé est en souffrance. Quelle vie! Quelle vie! 38 ans couché. C'est terrible, hein? Même si c'était une année, c'est terrible. 6 mois, c'est terrible. Mais 38 ans. Après toutes ces années, on peut se dire, mais quelle situation désespérée. Et oui, elle est désespérée, la situation. Parce qu'en la lisant, nous nous rendons compte que cet homme avait la volonté d'être guéri, mais il n'avait pas le moyen. C'est terrible de vouloir quelque chose sans pouvoir l'obtenir. Peut-être même que son cas était pire de tous, hein. Mais ce qui est terrible, c'est que pendant toutes ces années, il a vu des malades être guéris devant lui. Il n'y a pas pire souffrance que ça, hein. Et parfois, nous pouvons être dans un cas pareil. On se dit, mais on ne comprend pas. Pourtant, je fais ce que Dieu me demande. Pourtant, je fais la volonté de Dieu. Et les choses ne vont pas comme elles devraient l'être. Il croyait, chaque jour, il croyait que ça allait être le bon moment pour lui, pour être guéri. Chaque jour. Chaque jour, il se traînait suffisamment vite pour arriver le premier jusqu'à l'eau. Mais malheureusement, quand il arrivait, il y avait déjà quelqu'un. Et il retournait désespéré. Vous savez, jusqu'à présent, il n'a connu que déception. Déception sur déception. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui est dans un cas pareil, déception sur déception. Tu te poses la question, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ça sera mon tour? Jusqu'à quand ça sera mon tour, voilà, de voir le bout du tunnel? Mais c'était sans compter sur l'intervention de Jésus quand même. Parce qu'il nous a fait savoir que Jésus va s'arrêter devant lui et il va lui poser une question. Veux-tu être guéri? Mais Seigneur, ça aurait été moi, je me dis, mais Seigneur, que tu rigoles ou quoi? Regarde ma condition quand même. Regarde ma situation. Tu n'as pas besoin de me demander si je veux être guéri. je suis là au bord de l'eau. Pourquoi? Parce que je sais que le moment venu, si je m'y jette, je vais être guéri. Mais malheureusement, le temps d'y arriver, il y a déjà quelqu'un d'autre. Et toi, tu me demandes si je veux être guéri. Mais il y avait une raison à cela. Parce que Jésus savait que cet homme avait la volonté, mais il n'avait pas la capacité. Cet homme avait toujours les regards fixés sur l'eau, croyant être délivré. Mais Jésus voulait que cet homme ôte ses yeux de la piscine pour regarder à lui, car le salut vient de lui. Le salut vient de Dieu. Notre délivrance vient de Dieu, frères et sœurs. Notre délivrance vient de notre Sauveur. Il sait que cet homme voulait être guéri, mais il lui manquait le moyen d'y parvenir. Mais la parole créatrice de Dieu, de Jésus, va produire le miracle en lui. Pourquoi ? Parce que Jésus ne va pas lui dire, écoute, viens, je vais t'aider à rentrer dans l'eau, puisque c'est là-bas qu'il y avait le miracle. Hein. Tous ceux qui s'y jetaient ressortaient guéris. Jésus ne va pas dire à cet homme, écoute, viens, moi je veux, s'il n'y a personne qui t'aide, si tu n'as pas de famille, si tu n'as pas d'amis, viens, moi je vais t'aider. Non. Non. Ça ne se passe pas comme nous on veut. Cet homme aurait voulu que quelqu'un l'aide à se jeter dans l'eau. Ça ne se passe pas comme on veut, frères et sœurs. Ça se passe à la manière de Dieu. Parfois, nous ignorons les circonstances et nous trouvons le temps long. Mais quand on lit ce récit, Jean chapitre 5, quand on lit ce récit, on se rend compte quand même. Là se trouve, verset 3, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, mais quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus va lui dire, parce qu'il y a en lui cette parole créatrice, cette parole qui donne la vie, cette parole qui transforme. Et ce matin, j'aimerais que tu saisisses par la foi ce que Dieu te dit ce matin, même si le temps est long, même si tu trouves que tu passes de déception en déception, il est celui qui a la capacité de changer les circonstances et les temps. Il est celui qui accomplit le miracle, puisqu'il est le Dieu du miracle. Il va dire à cet homme, comme je vous l'ai dit, il n'a pas dit, viens, je t'aide. Cet homme s'attendait à un soutien humain. Mais Jésus lui donne un soutien divin. Parce que notre délivrance ne vient pas des hommes. Notre délivrance vient de Dieu. Jésus va lui dire, lève-toi. Lève-toi. Ce matin, j'aimerais que tu saisisses cette parole de Jésus. Dans ta souffrance, dans ta difficulté, dans ta situation, au lieu de regarder à ta souffrance, à ta difficulté, même si elle est une réalité, Jésus te dit ce matin, lève-toi, ne demeure pas là, il est le Dieu vivant, il est celui qui a livré sa vie à la croix, il a été cloué, il a été meurtri, il a été brisé, il est mort pour toi et il te dit ce matin, regarde à celui qui a sauvé ta vie, regarde à celui qui a accompli le plus grand des miracles en te délivrant de la mort, en te délivrant de la condamnation et il te dit ce matin, regarde à ce qu'il a accompli et viens à lui, lève-toi. Ne dites pas amen, c'est pas grave. Lève-toi, dira Jésus. Il dira à cet homme, lève-toi. Prends ton lit et marche. Mais ça fait 38 ans quand même qu'il était couché. Ça fait 38 ans. lève-toi et marche. Il est dit ceci, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Il ne savait pas que c'était Jésus. Toi, tu connais Jésus. Tu sais qui il est. Tu sais qu'il t'aime de tout son cœur. Tu sais qu'il est mort à la croix pour toi. Tu sais qu'il ne t'abandonne pas, même si tu souffres depuis longtemps, même si tu traverses cette difficulté. Jésus voudrait réellement que tu reconnaisses qui il est et l'autorité qu'il a de te faire sortir de cette situation. Parfois, nous trouvons le temps long. Malheureusement, si bien que le doute, l'impatience, la pression du temps et même la fatigue nous assaillissent. Toutes ces choses-là combattent contre nous quand nous sommes dans ce temps d'attente. Mais quand Dieu tarde dans l'accomplissement de ses plans, c'est pour des raisons propres à lui. Mais c'est toujours sa volonté qui doit s'accomplir. On va baisser nos fronts, frères et sœurs. Nous sommes dans ce temps de célébration de Noël, de la naissance de notre Sauveur. Et nous savons que, tout comme l'évangéliste Luc va dire en parlant de sa venue, il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette joie, le Seigneur voudrait que tu l'aies. Il veut que tu la saisisses. Tu traverses 7 ans d'épreuve et tu trouves le temps long. Et je ne sais pas ce qui combat à l'intérieur de toi, le doute, l'impatience, la pression du temps, même la fatigue. Tu es fatigué. Tu es fatigué de cette situation. Cet homme, 38 ans, peut-être qu'il ne s'imaginait même plus que quelque chose de bon pouvait lui arriver. Il ne doutait même plus qu'il avait un jour, ce serait lui. Jusqu'au jour où Jésus va s'arrêter pour dire « Maintenant, c'en est assez. Tu te lèves de là maintenant. » Je ne sais pas jusqu'à quand le Seigneur va vous faire sortir de cette souffrance. Mais ce que je sais, c'est qu'il en a la capacité. Ce que je sais, c'est qu'il a le pouvoir. Ne doute pas un instant dans ton cœur. Ne doute pas un instant. Tu es là assis et tu doutes. Alors que je parle, tu doutes dans ton cœur. Je le ressens, je te vois, tu doutes dans ton cœur. Mais le Seigneur voudrait réellement que, au lieu de fixer tes regards sur cette situation, même si elle est réelle, comme cet homme qui fixait toujours ses regards sur l'eau, Jésus voudrait que tu ôtes tes regards de la situation et que tu le fixes vers lui. Parce que c'est lui la solution. Ce ne sont même pas ceux qui sont autour de toi. Il a le pouvoir, il a la capacité. veux-tu dire Seigneur ? Même si le temps est long, je veux m'attendre à toi. Même si le temps est long, je veux te faire confiance. J'aimerais prier et que j'aimerais que l'Église prie s'il y a quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu. Levez simplement la main, nous allons prier pour vous et avec vous. Alléluia. Oui, nous savons bien. Nous savons bien que ces situations nous dépassent. Et parfois nous pleurons. Parfois nous gémissons. Parfois nous ne savons même plus quoi faire. Tellement ça nous pèse. Tellement c'est lourd pour nous. Pour nous-mêmes, pour nos proches qui sont dans la souffrance. On ne sait plus quoi faire. J'aimerais que l'on prie. Pour ceux et celles qui ont levé la main et qui s'attendent vraiment à la grâce de Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Prions ensemble, frères et sœurs, élevons nos voix. Tu es celui qui accomplit tes promesses. Tu es celui qui ne faillit jamais. Rien ne peut t'arrêter, Seigneur. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Seigneur, à cause de cela même, je te prie dans le nom de Jésus. Vois mes bien-aimés éternels qui traversent ces temps de difficultés, ces temps d'épreuves. Seigneur, ne permets pas que le doute, l'impatience, la fatigue les gagnent, Seigneur, mais permets-leur, donne-leur la force de se décharger sur toi. Ô Éternel, nous te supplions, alors que nous célébrons, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta venue sur la terre pour sauver les âmes, Éternel, par la foi, nous savons, Seigneur, que tu peux encore aujourd'hui, tout comme tu as relevé cet homme couché depuis 38 ans, Éternel, oui, un seul mot de toi, Seigneur, mon Dieu. Et tu accompliras ta volonté, tu donneras gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Comme diront les apôtres, je n'ai ni argent ni or. Mais au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, je veux confesser le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux mettre ma foi en action pour souffrir avec mes frères et ceux qui souffrent. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te supplions cette journée. Viens à notre secours, Seigneur. Oh, libère, délivre. Oh, Seigneur, essuie les larmes, oh, Seigneur. Oh, Seigneur, lève-toi. Lève-toi et agis, Seigneur. Que mes bien-aimés ne passent pas ces temps de fête dans la tristesse, Seigneur. Mais qu'il y ait des temps de réjouissance. Comme le prophète Isaïe dira, l'Esprit de Dieu est sur moi, car l'Éternel m'a oué pour apporter de bonnes nouvelles. Oh Seigneur, que cette bonne nouvelle soit une réalité. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh, nous croyons en ton autorité, Seigneur. Et nous te disons merci. Oui, nous te disons merci, Seigneur. Nous donnons gloire. Nous donnons gloire à celui qui règne à jamais. Gloire à celui qui a autorité sur toutes choses. Ô Seigneur, mon Dieu, maintenant nous nous attendons à toi. Manifeste ta puissance, afin que le monde sache et que le monde voit que tu es l'unique, Seigneur. Seigneur, si quelqu'un au milieu de nous, Seigneur, ne sait pas qui tu es, révèle-toi. Révèle-toi à cette personne, Seigneur. Ô Éternel, je te prie dans le nom de Jésus, pendant ces temps de fête, révèle-toi aux hommes. Fais-leur goûter à ton amour, Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Éternel, que notre ville et ses environs soient touchés par la puissance de ton nom, Seigneur, mon Dieu. Amène un plus grand nombre à toi. Ô Éternel, nous voulons donner gloire à ton nom. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.